débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur Radio France Internationale. L'Iran élit son président aujourd'hui. Alors l'influence des deux forces qui sous-tendent la société iranienne va pouvoir être mesurée dans les urnes. Le président modéré réformateur qui occupe la présidence aujourd'hui va-t-il laisser sa place à son rival conservateur ? Réponse dans quelques heures. La politique de l'Iran vis-à-vis de ses voisins en sera-t-elle modifiée ? À voir. Alors l'Iran est aujourd'hui présent militairement dans trois pays en crise, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Quelle est la nature de cet engagement ? Quelles en sont les raisons et les objectifs ? Quel rôle joue l'Iran dans les conflits régionaux ? C'est ce dont on va parler ce soir avec nos deux invités que je vous présente tout de suite. Je commence avec vous, Bernard Ourcade, géographe, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS, qui est le Centre National de Recherche Scientifique en France, spécialiste de l'Iran donc, et vous êtes l'auteur de cette géopolitique de l'Iran aux éditions Armand Collin. Bonsoir Bernard Ourcade.
Bonsoir.
Et puis Pierre-Jean Louisard est lui historien, spécialiste donc du Moyen-Orient, en particulier de l'Irak, de la Syrie et du Liban, et auteur, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le piège Daesh, c'est aux éditions de La Découverte. Bonsoir Pierre-Jean Louisard.
Bonsoir.
Alors, je vais laisser Bernard Ourcade reprendre son souffle parce qu'il a été pris dans les embouteillages, il a couru un petit peu, et je vais poser la première question à Pierre-Jean Louisard. Est-ce qu'on peut peut-être, pour commencer, éclaircir cette situation complexe, évaluer la présence militaire de l'Iran dans ces trois pays, Irak, Syrie, Yémen, en nombre, en importance, comment se manifeste cette présence ?
Alors, l'Iran est présent militairement et politiquement en Irak et en Syrie, ce n'est pas le cas du Yémen, c'est un fantasme sunnite assez répandu, hein, l'idée selon laquelle il y aura un croissant chiite dont ferait partie le Yémen, les Zaydites qui sont crédités du chiisme par les sunnites ne sont pas de la même branche que les chiites d'Iran. Ce sont des Zaydites qui reconnaissent 5 imams, alors que les chiites d'Iran en reconnaissent 12. Et historiquement, ils ont toujours été plus proches des sunnites que des chiites. Mais aujourd'hui, la globalisation aidant, ils sont rattrapés par un conflit, la globalisation d'un conflit confessionnel entre sunnites et chiites qui est attisé par l'effondrement d'un certain nombre d'États arabes.
Alors, en Syrie et en Irak, et on mettra le Yémen en cas particulier, comment on peut évaluer la présence militaire de l'Iran dans ces deux pays ?
Les gardiens de la révolution iranienne ont eu un rôle décisif dans la reprise d'Alep, notamment d'Alep Est, à la fin du mois de décembre 2016. Ça a été le cas également à Tikrit en 2015, lorsque l'armée irakienne, secondée par les milices chiites, qui elles-mêmes sont formées et armées par les gardiens de la révolution iranienne, a été reconquise sur l'État islamique. Donc on peut dire que sans que nous ayons une coalition à l'image de la coalition dirigée par les États-Unis, l'Iran se retrouve aujourd'hui côte à côte avec la Russie, de façon massive en Syrie notamment, mais aussi avec tous ses alliés dans la région, au premier rang desquels le Hezbollah et les milices chiites irakiennes.
D'accord. Bernard Ourcade, alors, le Yémen, vous êtes d'accord ? Pas vraiment de présence militaire iranienne au Yémen, malgré ce qu'on en dit ?
Il doit y avoir quelques conseillers militaires, forcément, mais ce n'est pas une alliance, ce n'est pas aucun rapport avec la Syrie et l'Irak, c'est un autre phénomène secondaire.
Alors, comment vous évaluez-vous la présence de la Syrie, de l'Iran en Syrie et en Irak, sur le plan militaire ?
Alors, sur le plan militaire, les Iraniens ont toujours eu le sentiment d'être encerclés par des forces hostiles, et donc, pour défendre l'intérêt national, les frontières de leur pays, ils vont donc voir à l'extérieur dans quelle mesure ils pourraient éviter qu'il y ait des gouvernements hostiles qui arrivent. En Syrie et en Irak notamment, la guerre Irak-Iran est très importante. Les gens au pouvoir en Iran aujourd'hui sont les anciens combattants de la guerre Irak-Iran, et donc ils ont une obsession qui est une nouvelle attaque venant de l'Ouest, de Bagdad ou de Syrie. Donc voyant les régimes s'effondrer, et notamment les forces sunnites djihadistes se renforcer, pour les Iraniens c'est un danger mortel. Ils voient derrière cela l'action de l'Arabie Saoudite, qui l'autre, on en parlera, l'autre grande puissance qui émerge, et donc ils vont aller bloquer cette avancée saoudienne, d'après leur discours. Le problème est, on peut reconnaître la nécessité pour l'Iran de protéger ses frontières, donc d'avoir une action au-delà des frontières pour éviter qu'un ennemi se mette en place. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est le fait que l'Iran est en fait un pays nationaliste dans ses gènes et pas impérialiste. L'Iran n'a jamais été un empire, sauf l'empire de Darius, mais ça fait 2500 ans. Et depuis qu'il existe, l'Iran a toujours été vaincu. Vaincu par Alexandre le Grand, vaincu par les Arabes, vaincu par les Turcs, vaincu par les Mongols. Et l'Iran, depuis qu'il existe au XVIe siècle, n'a jamais conquis les territoires extérieurs. Il a au contraire été mangé, dévoré sur les limites. Il a fait des incursions quelquefois. Donc l'Iran a un sens aigu de la défaite, les martyrs. Et ils célèbrent la gloire de la défaite héroïque, de la résistance. Ils ont d'excellents résistants, mais pas des conquérants. Et le problème est qu'aujourd'hui, pour des questions de résistance et de défendre leur intérêt, ils sont partis très loin de leurs frontières. Ils ont pris Alep. C'est incroyable, c'est irréaliste, surréaliste. Que font-ils, que peuvent-ils faire de cette victoire? Dans la question que je me pose de façon géopolitique, si vous voulez, c'est comment l'Iran, qui est en train de sortir de sa coquille, s'est retrouvé dans une aventure militaire qui était justifiée sur des questions nationales, mais qui aujourd'hui ne savent pas comment gérer. Et donc maintenant, ils ont des milices sur les bras, ils ont une force extérieure, ils ont une hostilité internationale, et à ma connaissance, ils n'ont pas beaucoup de moyens politiques pour gérer tout cela.
D'accord. Pierre-Jean Luisard, c'est le nationalisme iranien, sa volonté de se protéger qui fait intervenir l'Iran, ou qu'une volonté impérialiste, vous êtes d'accord avec Bernard Orcab?
Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'Iran a cru avoir un boulevard devant lui avec cette marche des communautés chiites arabes vers l'émancipation. Il faut rappeler qu'un point commun de toutes ces communautés chiites était le fait d'être dominées politiquement et socialement. Oui. C'était le cas à Bahreïn, en Arabie Saoudite, dans la province sur le golfe du Hassa, de l'Irak et du Liban aussi, puisque les chiites libanais, majoritaires au Liban, sont la dernière communauté à s'émanciper politiquement. L'Iran a retrouvé, après la révolution islamique, une politique qui était celle du Shah, c'est-à-dire de considérer les communautés chiites comme un vecteur traditionnel d'influence iranienne, à la différence près que là, elle s'est impliquée dans un conflit qui la dépasse, et en Syrie notamment, la communauté chiite est ridiculement petite, elle fait à peine 1% de la population. Alep est une grande métropole arabe sunnite, donc on est aujourd'hui dans un engrenage, donc je crains que l'Iran ne soit aussi la victime, parce que c'est un conflit qui aujourd'hui embrase toute la région, mais bien au-delà, puisqu'on voit que l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde sont également touchés par cette confrontation entre les deux principales branches de l'islam.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Pierre-Jean Bizarre sur cet aspect-là. Bien d'accord sur le fait que sunnisme et chiisme, c'est très important, que la République islamique est une République non pas islamique, mais qu'elle est chiite, et que le chiisme minoritaire a une opportunité, comme ça vient d'être dit, de pouvoir exporter ces changements politiques, etc. Mais je vois plus le chiisme comme des satellites. C'est pas un empire, c'est pas un réseau. Ce sont des satellites, des îles isolées. Alors il y a quelques chiites au Liban, il y a 3 ou 4 ou 5, quelques villages, et l'Iran va se fonder sur eux. Il y a les Hazaras en Afghanistan, il y a les gens de l'île de Bahreïn. Ce sont des petites choses sur lesquelles l'Iran va se fonder, mais sans réussir à les fédérer et sans réussir à vraiment les coordonner. Ils essaient d'être là, mais ils sont iraniens, ils ne sont pas arabes. Et je suis frappé, moi, au contraire, par le fait que, certes, la dimension chiite, sunnite, est très importante au niveau populaire, c'est une évidence, cela, mais l'importance des États. Et moi, j'insisterai plutôt sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons face à face la République islamique d'Iran qui n'existait pas il y a 40 ans. C'est un phénomène tout à fait nouveau politiquement, c'est une nouvelle puissance. Et l'Arabie saoudite et monarchie pétrolière qui n'existaient pas il y a 40 ans. Certes, ils sont sunnites et chiites, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent les dissocier. Je verrai l'aspect important, c'est qu'aujourd'hui, c'est un État qui soutient la force sunnite, c'est l'Arabie saoudite. Et c'est un État qui soutient les forces chiites, c'est-à-dire l'Iran. Et c'est le facteur étatique qui me semble aujourd'hui très important.
C'est un vieux et long débat, cet aspect religieux dans la confrontation. Peut-être essayer de comprendre, puisqu'on est à cette confrontation Iran-Arabie saoudite, et que ces deux blocs régionaux ont l'air particulièrement antagonistes, comment on en est arrivé là, historiquement enraciné ou phénomène relativement récent? Vous pouvez nous expliquer ça,
Il y a d'abord la très grande difficulté qu'ont les deux principales branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme, de reconnaître l'autre. Les sunnites ne sont pas reconnus en Iran, de même que les chiites ne sont pas reconnus en Arabie Saoudite et en Turquie, qui est l'héritier de l'Empire ottoman.
Donc la dimension confessionnelle
est importante. C'est la question du pluralisme en islam qui est posée. Ils se reconnaissent comme musulmans, réciproquement, mais ils n'ont pas de statut, et évidemment, je ne parle pas des sectes issues du chiisme, comme les alaouites, les druzes et d'autres, qui, eux, ne sont pas reconnus, d'une certaine façon, comme musulmans. Donc, c'est la grande question qui, aujourd'hui, fragilise tous les États de la région, et où l'Iran est tombé un peu dans le piège d'une intervention à court terme. Je ne dis pas qu'elle cherche à imposer une loi impériale, mais elle l'a mis le doigt dans un engrenage communautaire qui la dépasse visiblement et qui dépasse tous les États de la région, puisqu'elle n'est plus seulement dans le cadre d'une confrontation avec l'Arabie Saoudite. Je rappelle qu'il y a aussi une guerre au sein de la communauté sunnite entre les mouvements salafistes djihadistes et les États, et l'Arabie Saoudite est aujourd'hui très inquiète de voir à ses frontières au nord et au sud, Al-Qaïda et l'État islamique, qui est aujourd'hui leur principal défi aux États.
Je suis tout à fait d'accord avec cela. Le fait que l'islam est devenu désormais un vecteur de composition politique dans tous les domaines, et on voit s'éclater ces guerres religieuses en quelque sorte. Mais justement, parallèlement à cela, il y a l'émergence des États. Et l'effondrement d'autres États. L'effondrement de l'Irak, de l'Afghanistan qui a explosé, la Syrie maintenant, le Yémen, etc. Or, on a deux États finalement qui résistent bien, l'Iran, bon État jacobin, centralisateur, qui fonctionne depuis 37 ans, et qui fait des élections, on va en parler tout à l'heure je pense, et l'Arabie Saoudite qui est fragile certes à l'intérieur, mais qui quand même est un gros morceau, et qui, même s'il est fragile, est encore un État solide, qui a de l'argent, qui a des moyens d'exister, et qui est quand même le patron de l'islam mondial par le fait qu'il contrôle la Mecque. Autrement dit, ces facteurs étatiques sont peut-être la solution d'avenir, en quelque sorte. Le président Trump sera en Arabie Saoudite ce soir, demain, oui, je crois, pas en Iran, ça aurait été une bonne chose, mais tout le monde maintenant dit que il faut trouver un équilibre entre ces deux forces pour arrêter cette guerre confessionnelle, oui, qui met en jeu des forces populaires et qui aboutit à des massacres tels qu'on les connaît.
Oui, alors je pense que si l'on recherche effectivement une stabilisation, il faut se reposer sur des institutions stables, mais précisément des États comme l'État irakien, l'État syrien et l'État yéménite ne sont pas considérés comme légitimes par une grande partie de la population. Oui. Et au lieu d'être une source de stabilité, ce sont des sources d'instabilité. Et il me semble que quand des États ont fait faillite, on le voit très bien en Irak et en Syrie, il y a peu de chances pour qu'il ressuscite, et venir à l'aide du régime de Bachar el-Assad ne fait que prolonger la crise.
C'est le
vaste débat.
Oui, le débat est important. On va peut-être essayer de revenir à l'Iran, essayer de rentrer au cœur du dispositif militaire. Est-ce qu'on peut évoquer pour cela la personnalité et le rôle du général Qassem Soleimani, qui est, semble-t-il, un homme clé des opérations extérieures de l'Iran, Bernard Ourcade?
Oui, Qassem Soleimani n'était pas un général numéro un pendant la guerre Irak-Iran, mais c'était un bon officier qui vient d'origine populaire, très pieux, très musulman, très chiite, et qui s'est affirmé comme un bon soutien de l'État iranien, de la République islamique d'Iran, et s'est imposé avec beaucoup d'empathie, peut-on dire, vis-à-vis de ses troupes, comme le chef de la force rose, c'est-à-dire les forces spéciales iraniennes d'environ 5-10 000 hommes, qui sont les forces spéciales iraniennes des gardiens de la révolution. Alors, c'est le meilleur connaisseur au monde des questions politiques entre Beyrouth et Kaboul. Ça fait maintenant 25 ans qu'il fréquente ces régions-là, qu'il connaît toutes les milices, tous les coins, tous les choses avouables et non avouables. Il a la meilleure expérience de la région. C'est par ailleurs quelqu'un de très calme, très posé, et qui a une belle efficacité militaire, et qui est donc un interlocuteur incontournable sur le champ de bataille. Et qui est au service de l'Iran. Quand on dit quelquefois il a des visées personnelles, qu'il veuille libérer Jérusalem, avoir sa propre politique et qu'il soutienne les communautés chiites, c'est une évidence dans son cœur. Mais c'est fondamentalement un général qui défend la République islamique et il fait ce qu'on lui dit de faire. Et donc il y a peu de risques de ce côté-là de le voir être emporté par ses succès militaires.
C'est peut-être aussi l'occasion de parler des gardiens de la Révolution, cette composante importante quand même de l'armée iranienne.
Oui, les gardiens de la révolution ont une influence très importante en Irak et en Syrie, et pour ne pas parler du Liban, où le Hezbollah est un état dans l'état grâce au soutien iranien et grâce à la formation de ses troupes par les gardiens de la révolution. Le général Qassem Soleimani a été vu à Tikrit, il a été vu à Alep, et les milices chiites qui secondent aujourd'hui l'armée irakienne comme l'armée syrienne, comme ça a été le cas dans un certain nombre de villages chiites du nord de la Syrie, sont directement formés et armés donc sous la supervision de ce général qui jouit d'une grande popularité. J'ai pu le constater sur place, notamment au sein de la mobilisation populaire qui rassemble en Irak l'ensemble des milices chiites.
Mais ces gardiens de la révolution, ils sont aussi les gardiens de l'ordre religieux, politique peut-être en tout cas, du pouvoir en place ?
Ils sont surtout les gardiens d'un ordre confessionnel chiite en opposition aux sunnites, et c'est peut-être là le grand défaut de cette alliance entre la Russie, l'Iran, le Hezbollah et les milices chiites, c'est que nous ne sommes plus dans le cadre de la révolution islamique en Iran, mais dans le cadre d'une lutte fratricide, et l'action des gardiens de la révolution iranien achève de convaincre les Arabes sunnites, notamment en Irak, qu'ils doivent s'en remettre à l'État islamique pour se protéger face aux dangers chiites.
Oui, je suis d'accord avec le sentiment qu'ont les gens sur le terrain. Voyons les choses de plus techniquement. Les gardiens de révolution, ce sont des conseillers militaires. Ils sont quelques centaines et un millier. Physiquement, ils sont pas plus que cela. Pour contrôler un tel terrain, il fallait des forces arabes ou des forces chiites et pas iraniennes en masse. Donc, les milices qu'ils ont prises. Mais il faut savoir que côté iranien, Soleimani craint ces milices. Il en a besoin. Il faut des tueurs, des combattants sur le terrain, et donc il les prend. Mais on sait pour Tikrit en particulier, il était un des premiers à essayer ensuite, quand les milices sont rentrées pour piller, pour massacrer comme normalement, à essayer de contrôler ces troupes-là. Et là, on voit bien, à travers ce qui se passe en Syrie et en Irak, la dualité qui est fondamentale et qui est le problème du régime iranien entre l'islam chiite d'un côté et le nationalisme de l'autre et l'ouverture internationale. Et aujourd'hui, le conflit, il est. Certains voudraient utiliser le chiisme à fond comme un vecteur de l'Iran. D'autres disent, on ne contrôle pas ce genre de choses. Dans le monde sunnite, on sera minoritaire. On perdra une guerre contre les sunnites parce qu'on est minoritaire. Et les nationalistes disent, ne perdons pas de temps ailleurs. Mmh. Et il y a d'autres objectifs aujourd'hui pour sauver l'Iran. Ce n'est pas de faire une guerre chiite, pro-chiite, qui est incontrôlable. C'est d'essayer d'ouvrir le pays, comme essaye de faire Rouhani, pour qu'il a guerre en Syrie et en Irak, dont il a hérité, est un sacré boulet attaché à sa cheville.
Quel que soit le président en Iran, et on a une petite minute à peine pour en parler, est-ce que son engagement militaire dans la région changera ou pas ?
Oui, je crois qu'une chose importante, on a deux forces en présence en Iran. C'est des gens qui veulent la résistance, qui veulent bloquer les choses, s'enfermer dans un discours nationaliste et chiite et religieux. Et d'autre côté, Rouhani, qui est également nationaliste et religieux, mais qui dit que pour l'Iran et pour sauver la République islamique, il est aujourd'hui indispensable d'ouvrir au 21e siècle. L'accord sur le nucléaire a été une révolution fondamentale, et un bouleversement après 37 ans. Il faut transformer l'essai aujourd'hui. Donc cette élection est vraiment très importante. Et on annonce, des amis venir à Téhéran, qu'il y a une participation massive des gens, ce qui voudrait annoncer un triomphe de Rouhani avec plus de 60-70% des voix peut-être, croisant les doigts.
Allez, on va devoir s'arrêter là, c'est dommage, on devrait passer davantage de temps à discuter de notre sujet. On revient sur l'Iran dans le cadre de notre édition spéciale, puisque vous le savez, RFI a délocalisé une partie de sa rédaction à Téhéran, ce qui nous met davantage en phase, vous l'avez peut-être écouté ce matin, avec la réalité du terrain. Le prochain rendez-vous, c'est à 20h10 pour une dernière donc édition spéciale sur cette présidentielle en Iran. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir éclairé l'aspect diplomatique militaire de cette relation entre l'Iran et certains de ses voisins. Bernard Orcade, donc géographe spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Je rappelle le titre de votre livre Géopolitique de l'Iran aux éditions Armand Collin, et Pierre-Jean Luizard, historien, spécialiste également du Moyen-Orient. Vous avez écrit, vous, le piège Daesh aux éditions de La Découverte.
Excellent bouquin.
Alors, conseillé largement, vous avez lu celui de Bernard Orcade, Géopolitique.
Excellent,
de...
également.
Alors, c'était parti pour un débat, et ça se termine dans une espèce de Non, en tout cas, le sujet est important, il est intéressant. Rendez-vous ce soir pour cette dernière édition spéciale. Je remercie également Florence Ponce qui a participé à cette émission et Claude Battista qui la réalise en ce moment même. Merci à vous, amis éditeurs, de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur Radio France Internationale.